Commençons par la prière. Notre Dieu, ta parole est sainte. Ta parole est une lumière que tu mets devant nous, qui éclaire notre chemin. Ta parole est une lumière pour celles qui cherchent la lumière, mais aussi elle peut être des ténèbres pour ceux qui ne cherchent pas ta lumière. Ta parole le dit. Seigneur, nous recevons cette parole comme une parole inspirée, une parole venant de toi, même plus que ça. Nous la recevons comme Christ, parce que la parole nous dit, Christ est la parole de Dieu. Mais Seigneur, notre Dieu, tu vois que nous sommes des humains, ne pouvant des fois mal interpréter, mal expliquer ta parole. Veuille nous pardonner par avance, et je te prie que dans les cœurs de mes frères et sœurs, soit ta parole, ton explication qui reste dans leur cœur. Et quant à l'orateur, si une erreur est commise, que tu puisses m'interpeller, me corriger, que je puisse le confesser s'il le faut, et me repentir. Merci en tout cas pour ces paroles que tu as mises dans mon cœur déjà il y a quelques jours. C'est-à-dire que tu m'as interpellé moi le premier, avant que je le partage avec mes frères et sœurs, toujours dans la paix et dans l'amour, en nous basant toujours sur ta parole sainte. En ton sein, mon Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est la maturité spirituelle. Très présente dans la Bible, dans la parole de Dieu, ou tellement mise de côté de nos jours, pas seulement de nos jours, depuis que l'Église existe, il y a toujours ce problème, on met de côté la maturité spirituelle parce que la maturité spirituelle coûte. Et nous nous contentons des fois d'une vie chrétienne, par l'affichage des fois, ce qui était mon cas, peut-être c'est mon cas, mais on est fier d'être chrétien, mais quand on jette un œil sur la parole de Dieu et on lit des fois des passages, ça nous heurte tellement, on les met de côté et on passe à autre chose. On nous dit que la vie chrétienne est une vie chrétienne d'abondance. Il faut être bien, il faut être joyeux. Il faut que notre église, dès le matin, qu'on se retrouve à 10 heures, il faut qu'on commence par danser, chanter. Et ceux qui ne veulent pas danser, hop, on leur dit, vous n'êtes pas des chrétiens. Le chrétien, c'est dans la joie, il faut danser. Eh bien, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Voilà. C'est autre chose. La vie chrétienne, c'est du sérieux. Il ne faut pas, je dirais, rabaisser cette parole jusqu'à la rendre comme une vie mondaine. La vie chrétienne, ça a coûté un prix. Le Fils de Dieu monté sur une croix. Qui parmi nous accepte de monter sur une croix pour les autres? Le Fils de Dieu l'a fait. Pourquoi ce sujet s'impose à moi, à nous, ce matin? Pour la simple raison, c'est que vendredi soir, j'ai lu un texte d'un certain Austin Sparks. Peut-être ça vous dit quelque chose, T.A.S. Austin Sparks. Cet homme de Dieu de la moitié du XXe siècle, Grande-Bretagne, que Dieu a utilisé, a vécu le réveil en Grande-Bretagne, et qui est passé par plein d'expériences. D'ailleurs, je vous invite à lire son témoignage, vous verrez. C'est quelqu'un qui n'était pas spécialement accepté, même dans le milieu religieux chrétien. Il a payé le prix. Eh bien, dans les années 30, ça, il est arrivé à un certain âge, et il a écrit un article qui s'intitule « La maturité, le désir du Seigneur pour son peuple ». Quand je l'ai lu, ben je l'ai relu. Et bien, quand je l'ai relu, ben je dis, je veux le partager avec mes frères et sœurs. Et bien, donc, vous avez compris que ce matin, ce sera ce message-là, mais j'ai ajouté des versets de la Bible, etc. Voilà, donc, comme j'ai bien pu le comprendre. Si vous voulez avoir le texte sans changement, je l'ai déposé hier sur le site de l'Église. Vous avez le texte inchangé, celui d'origine d'Austin Sparks, qui date de 1933. Je vais relire devant vous le passage dans la Bible, la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14, qui fait le cœur de ce message. Je le relis. Hébreux 5, 11, 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On voit bien vers quoi le Seigneur veut nous cheminer, veut nous amener. Il est clair, quand on lit ce passage-là, il veut que nous soyons des hommes et des femmes d'une certaine maturité spirituelle. Quand c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je peux le comprendre. Mais quand c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans, il faut se poser des questions s'il n'y a pas de changement dans notre vie. Dire cela, c'est pas accuser les uns ou les autres puisque je me mets dedans. Mais c'est seulement une honnêteté devant Dieu. Seigneur, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que je te connais, mais je ne vois pas de changement en moi. Quelque part, je suis en train de lui dire, mais ce qui est écrit dans ta parole de Dieu, pourquoi il n'y a pas cet écho dans mes jours? On évite de dire ce sujet parce qu'on dit, arrêtons de culpabiliser les uns les autres. Mais continuons à vivre des bébés spirituels. Comme ça, on ne se culpabilise pas. En tant que corps du Seigneur, l'Église n'a de sens que si elle chemine vers de plus en plus de maturité. Le dessein de Dieu n'est pas uniquement le salut des âmes, ni même le rassemblement de croyants dans un corps spirituel. Mais c'est ce qui suit le salut. Le salut, ce n'est pas une fin. Le salut, c'est le début de quelque chose. Leur accession à la maturité. Voilà l'objectif de Dieu pour son Église, qui représente l'intérêt suprême du Seigneur dans cette présente dispensation. Il n'y a aucun doute. Il est parfaitement clair que c'est là la caractéristique marquante du temps présent. Et il parle déjà des années 30. Quand je l'ai lu, je ne vois pas la différence par rapport à notre époque, si ce n'est pas pire. Il n'y a aucun doute et il est parfaitement clair que c'est là la caractéristique marquante du temps présent. La pleine croissance, être parfaitement accompli, c'est ici le désir du Seigneur pour son peuple. C'est ce qui ressort indubitablement lorsque nous lisons la parole de Dieu à cette lumière. Et la surabondance d'immaturité est tout aussi établie. Que le Seigneur se meut au milieu de son peuple afin de les amener à la plénitude, autant que ceux-ci veuillent bien le suivre dans cette plénitude, est un fait tout aussi incontestable. Nous savons tous que l'immaturité domine. Nous savons qu'il existe une multitude de croyants, ceux qui sont du Seigneur, qui vivent malgré tout dans le pénombre de l'immaturité, qui ne paieront pas le prix de suivre le Seigneur. Et nous serions tentés de dire, comme l'avait fait quelqu'un il y a bien longtemps, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Et le Seigneur de répondre, « Il ne t'appartient pas de faire de l'immaturité des autres ton critère. Mais ce que je désire doit être la chose qui gouverne toute ta pensée et qui t'occupe entièrement. » Ainsi, l'accomplissement et la plénitude étant le dessein et la volonté de Dieu, nous reconnaissons la signification de tout ce que fait le Seigneur. Si le Seigneur est vraiment déterminé à amener le croyant à la pleine croissance, c'est-à-dire à la maturité spirituelle, si c'est ici vraiment l'un de ses objectifs suprêmes, alors il ne considérera aucun sacrifice trop élevé pour parvenir à ses fins. Et cette vérité expliquera toutes ces voies mystérieuses envers les siens et toutes les choses singulières qui semblent parfois être ses œuvres agissant contre ses propres intérêts. Beaucoup de passages dans la Bible nous interpellent du danger de cette immaturité. Et je vais vous lire deux passages dans la Bible. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Trois versets. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme charnel? Deuxième passage, je l'ai lu tout à l'heure. C'est dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, toujours dans la charité, oui, l'amour, mais la vérité, toujours, ça me rappelle un peu ton témoignage, un peu Dorothée, hein, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, c'est-à-dire le Christ. D'autres passages, on peut lire. Mais je n'ai pris que ces passages-là. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. En cette vérité, expliquera toutes ses voies mystérieuses envers les siens et toutes les choses singulières qui semblent parfois être ses œuvres, agissant contre ses propres intérêts. Très souvent, il nous semble que le Seigneur œuvre contre nos propres intérêts. Et que tout ce qu'il fait est malencontreux. Mais le Seigneur est prêt à prendre des risques. Il a mis entre parenthèses ce qui est pris pour des risques par ceux dont l'entendement est si limité. Pour le Seigneur, il n'y a pas de risque. Et à s'investir dans ce qui semble être des malentendus, si seulement par ses moyens, il peut atteindre son but. Prenons l'exemple du peuple hébreu. 40 ans dans le désert étaient nécessaires pour atteindre la terre promise. Et pourtant, c'était une terre pour tout le monde. Seulement un reste de ce peuple a atteint la terre promise, tellement il y avait de l'immaturité dans le peuple hébreu. 40 ans d'errance dans le désert, après avoir désobéi à Dieu et enfreint ses commandements, le temps qu'une génération grandisse, s'appuie sur l'expérience et les erreurs de la génération précédente et entre en terre promise. C'est la deuxième génération qui atteint la maturité, pas la première. Pourtant, ils avaient reçu une promesse. Les murmures, la désobéissance du peuple hébreu, ce sont une preuve d'immaturité de ce peuple-là. Ramenons la vie de ce peuple hébreu au peuple chrétien. Le croyant est devenu le possesseur de facultés spirituelles, entièrement nouvelles, et une nouvelle création spirituelle. Un être d'une nature différente, une création totalement distincte, et nous le sommes. Ces facultés spirituelles, seules par lesquelles les choses de Dieu peuvent être connues et vécues, doivent être développées, doivent croître, doivent parvenir à une position d'efficacité spirituelle. Tout comme pour un enfant naturel qui a certaines facultés à la naissance, mais qui doit avoir une croissance régulière de celle-ci pour arriver à l'état d'homme fait. Le croyant né d'en haut a en lui une panoplie entièrement différente et nouvelle de facultés, de ce qu'il avait lorsqu'il est né naturellement et qu'il est par nature. Il a tout reçu en lui, ça n'attend juste qu'une chose, se fructifier, le transformer. Ce sont ses facultés et aptitudes spirituelles qui doivent être développées afin qu'il devienne mature, et ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il devienne mature spirituellement, efficace dans le Seigneur et pour le Seigneur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la nourriture solide est la provision appropriée pour ceux qui ont le sens exercé. Il parle d'Hébreux 5, verset 15. Et il déplore le fait qu'après des années, ces croyants étaient toujours incapables d'assimiler de la nourriture solide, parce que leurs sens et leurs facultés n'avaient pas été développés. Les voies du Seigneur sont insondables. Elles ne doivent jamais être jugées selon nos critères naturels. Le Seigneur permet que des calamités nous assaillent, mais avec un but en vue. Des choses qui, lorsqu'elles surviennent, le légitimera totalement. Nous découvrirons alors que ce qui nous semblait être la faiblesse de Dieu s'est prouvé être en fait sa force, son infériorisation, sa puissance. Ce qui nous paraît sa folie, pourtant, c'est sa sagesse. Ainsi, il sera de tout homme qui se confie dans le Seigneur. Ainsi, il sera justifié à la fin. Dans ces principes paradoxaux, folie pour nous, sagesse pour Dieu, nous avons la clé de la croissance par l'expérience. Il n'y a pas de croissance sans expérience. Si nous considérons le passage où il est question d'être exercé, dans Hébreux chapitre 5, verset 14, nous découvrirons que cet exercice prend place en nous par des expériences produites, permises souvent par Dieu. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 5. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Comment ce fruit est-il produit? Par la discipline qui nous est administrée par Dieu. Dieu agit envers nous comme envers des fils, si du moins nous supportons et nous acceptons la discipline. Son désir est d'amener ses fils à la maturité. La façon dont il nous discipline, c'est cela, l'exercice et l'expérience. Le Seigneur peut nous faire cesser toute activité, même si elle nous paraît bonne, et nous ne voulons pas l'abandonner. Et nous empêcher d'être actifs, même si nous jugeons que l'activité ne peut venir que de Dieu. Nous traversons un mauvais moment et nous disons que le Seigneur nous a rejetés et que tout va mal. Mais qu'en est-il vraiment? Ce ne sont en fait que les douleurs de la croissance. À la longue, rien n'allait mal. Tout concourait pour le bien, celui de nous transformer et de nous préparer pour la rencontre finale. Nous sommes arrivés à connaître le Seigneur, alors qu'avant, nous n'avons que le savoir. Alors qu'avant, notre vie entière était occupée par des choses, bonnes soient-elles. Nous avons été limités, mais nous sommes venus à connaître le Seigneur intérieurement par l'expérience. Nous sommes parvenus à une position d'efficacité spirituelle qui est bien plus importante qu'auparavant. Nous pouvons maintenant faire face aux situations extérieures parce que nous avons l'expérience. Le Seigneur avait été mal compris, mais en fait, il œuvrait pour l'accroissement de chacun de nous, l'accroissement de son Église. Nous exerçons en vue de l'accroissement. Ces douleurs de croissance peuvent être douloureuses, mais personne ne peut venir en aide à quelqu'un qui en souffre. Nous ne pouvons qu'observer ce qui se passe, mais Dieu le sait. Ainsi, à travers des expériences nombreuses et variées, cette croissance prend place par les exercices douloureux à travers lesquels le Seigneur nous fait passer. Nous apprenons par la souffrance, nous apprenons par les épreuves, et au bout, il y a plus de gains que de pertes. Même le Seigneur Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La parole de Dieu. C'est le chemin, et ce passage-là, c'est Hébreux chapitre 5, verset 8, si vous voulez. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est le chemin que nous devons prendre pour atteindre la pleine croissance. Il s'agit de discipline et d'apprendre par les expériences. La discipline a pour but de faire de nous qui sommes des enfants de Dieu et qui devons devenir des fils de Dieu, qui fait de nous des hommes faits à la stature du Christ. Je pense, en ce qui concerne ces choses, que nous devrions avoir plus de foi dans les agissements de Dieu envers nous. C'est parfois douloureux et même agonisant. Que fait donc le Seigneur? Pourquoi ces difficultés se succèdent-elles si intensément? Il semble que le Seigneur recherche à nous presser vers la maturité, à nous amener à la position où nous apprenons quelque chose, à une position que nous pouvons dire comme Job, « J'ai entendu parler de toi, mais quel privilège, je te connais maintenant. » La bonne attitude à adopter envers chaque épreuve, que le Seigneur permet, chaque chose nouvelle est difficile. Quel est donc le but auquel le Seigneur recherche à nous amener par cette expérience? Ce n'est pas pour détruire, mais pour édifier, puisque de toute manière nous sommes gagnants, il nous prépare pour l'éternité. Non pas pour appauvrir, mais pour accroître. Non pas pour limiter, mais pour élargir. Ce sont dans les vallées de l'ombre de la mort que le Seigneur a quelques trésors que nous devons découvrir. La lumière ne luit pas quand il y a l'obscurité. L'obscurité joue son rôle pour que la lumière apparaisse. Quelques-uns d'entre nous peuvent dire, oui, c'est ce que nous avons découvert, les choses sont ainsi. Et c'est merveilleux. Nous avons traversé ces sombres vallées et nous y avons trouvé la plénitude. Nous y avons acquis une plus grande connaissance du Seigneur. Avons-nous remarqué la chose qui est en vue dans ce passage qui traite d'être exercé? Et notre frère parle d'Hébreux 5, verset 15. Verset 15. C'est être à même d'apprendre le discernement. Il était question ce matin. C'est être même de discerner. Il s'agit de l'intelligence spirituelle, issue de l'expérience, sans laquelle il n'y a pas de discernement, de le connaître lui personnellement. Il désire que ses enfants soient individuellement le centre de sa propre connaissance spirituelle. Ensuite, nous emmenons ensemble dans un seul esprit, il a eu part de l'Église, afin d'œuvrer une seule œuvre et de penser une seule pensée. Il s'obtiendra un instrument intelligent qui parvient à la connaissance du cœur du Seigneur par l'expérience. Cette faculté d'intelligence spirituelle, de connaissance spirituelle, cette compréhension intérieure de toutes choses doit être développée afin que nous connaissions le Seigneur dans notre homme intérieur. Ainsi, à chaque fois, nous entrons dans une expérience profonde qui nous affermit dans une connaissance plus profonde de notre Seigneur. L'épreuve, n'oublions pas mes frères et sœurs, l'épreuve peut mener à la vie comme elle peut mener à la mort. Nous pouvons choisir l'une des deux attitudes envers les voies du Dieu. Soit nous devenons amers, acerbes, endurcis, ou bien nous pouvons être spirituellement élargis par ce que nous vivons, agrandis par l'exercice, afin d'augmenter notre capacité de nous acheminer à une position de maturité. Mais n'oublions pas une chose, en toute épreuve, si les hommes nous abandonnent, Dieu est là. Nous ne pouvons pas toujours sonder les choses qui forgent notre histoire personnelle, mais l'explication que nous pouvons en donner est celle-ci. Le Seigneur est souverain sur tout ce qui nous touche de près ou de loin, et il considère parfois comme nécessaire ce que le monde juge comme étant les choses les plus terribles qui puissent arriver à quelqu'un. Souvent l'épreuve que tu leur as fait son œuvre, sans que nous nous rendions compte, le Seigneur permet que cette épreuve disparaisse, parce qu'elle a accompli son œuvre et n'a plus lieu d'exister. Ils parviennent à une connaissance personnelle du Seigneur. À travers toutes ces choses difficiles, nous voyons que le Seigneur produit la vie. Il produit la vie dans tous ceux qui lui appartiennent. C'est là sa justification, sa légitimation, S'ils pouvaient accomplir ces choses d'une autre façon, ils l'auraient fait, ils le feraient. À terme, il obtient ce qu'il voulait depuis le départ, ce que nous penserons jamais, c'est-à-dire la maturité spirituelle qui ne peut s'obtenir que par l'expérience salvatrice. Il les amène là où ils le connaissent. Le Seigneur veut nous amener à une position où nous le connaissons, là où nous avons les sens exercés pour le connaître. Le Seigneur veut nous amener à la maturité et ne pas rester des bébés spirituels. Son Église en a vraiment besoin pour l'avancement de son royaume, pour que la semence que nous avons reçue produise des fruits en nous. Ces fruits sont les preuves de la maturité spirituelle, comme nous pouvons le lire dans Luc, chapitre 8, versets 14 et 15. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que le Seigneur nous donne la grâce d'accepter tous ses agissements envers nous à la lumière de son propos éternel. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, je ne pouvais pas ne pas partager avec vous cette lecture que de vendredi, et qui m'a interpellé, qui m'a parlé, et qui amène en même temps la joie et la paix, qui nous montre que Dieu, il a tout dans ses mains, même devant les hommes, des fois qui paraissent, mais Seigneur, il sait tout. Et en lui, nous avons totale confiance que Dieu nous aide.